On va partir, on va rester du côté de chez nous, tout simplement, parce que les choses les plus intéressantes sont peut-être pas loin d'ici, tout simplement, avec un petit détour du côté de Saint-Aubin-de-Lauquenay, avec en direct Julie Allais, Julie Mercier, en direct de la ferme des Brebis Allais. Voilà, voilà, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, tu vas bien ?
Ça va, merci.
Ça va, quel temps il fait à Saint-Aubin ?
Eh ben c'est couvert, mais il fait bien chaud.
Voilà, il fait bien chaud, j'imagine un petit peu comme à Fresnay, on n'est pas très loin, on est un petit peu voisins quand même.
Ouais.
Alors Julie Mercier, donc élevage, si je ne me trompe pas, de ferme, enfin élevage de brebis bio pour une production de fromage, tout ce qui est produit laitier à partir de lait de brebis, c'est bien ça ?
C'est ça.
C'est ça, et depuis combien de temps tu es installée à Saint-Aubin dans cette ferme ?
Alors, je suis installée depuis mai 2012,
ouais.
Et donc on a fait nos premiers fromages à peu près un an après, en 2013, parce qu'avant c'était une ferme où il y avait des vaches à viande, et que nous on a dû aménager les bâtiments pour avoir des brebis laitières.
Oui, et pourquoi donc ce choix de s'installer en élevage bio, brebis bio ?
Alors, le bio pour nous, comme pour moi comme pour Sébastien, ça coulait un petit peu de source. Mes expériences agricoles, moi, c'était de la garde d'alpage, donc
oui,
avec des brebis viande qui mangent de l'herbe, et avec un maximum de soins naturels. Donc, nous, l'idée, c'était ça, c'était... Au niveau culture, bon déjà on est sur des surfaces, on a quasiment que des prairies, donc de l'herbe. Donc l'herbe, a priori, on n'est pas obligé d'utiliser des produits phytosanitaires pour faire ni engrais ni pesticides pour faire pousser.
Ouais.
Et puis bah, les brebis, si on peut les soigner le moins possible et le plus, et quand ça doit se faire, le plus possible, soit en homéopathie ou en aromathérapie. Et puis nous serons la clé de voûte d'un élevage bio bien mené, c'est avant tout l'immunité. Donc travailler sur l'immunité, ça veut dire qu'une alimentation, un peu comme pour les humains,
hein, ouais,
une alimentation
saine,
équilibrée,
oui.
Saine. Et nous, on a dans nos objectifs pour ça aussi de ne pas trop tirer sur l'animal.
Ouais.
C'est-à-dire qu'un animal qui produit beaucoup, il est forcément plus fragile sur d'autres points.
Alors tu parlais d'élevage dans les alpages, j'imagine que c'était pas en Sarthe ça.
Non, ça on a fait le Puy-de-Dôme, le Vercors et puis la Savoie, entre
ouais.
autres.
Et pourquoi cette installation en Sarthe ? Parce qu'il aurait pu se faire des choses dans le Puy-de-Dôme, dans le Vercors, dans les Alpes. Alors les Alpes-Mancelles, c'est pas loin, mais c'est pas encore la même chose.
C'est ça, ouais, mais je suis originaire du. Enfin, mes grands-parents qui étaient agriculteurs à Silboigne et un oncle y est toujours. Et puis les Alpes-Mancelles, ma foi, ça. C'est un coin qui nous plaît bien, donc on n'est pas très loin, ce qui fait qu'on peut s'évader de temps en temps le dimanche quand il n'y a pas trop de travail.
Ouais. Et combien de brebis aujourd'hui dans cet élevage à Saint-Aubin-de-Lauquenay ?
Alors cette année on a trait environ 70 brebis. Donc après, s'ajoute à ça les antenaises, ce qu'on appelle les antenaises, donc les adolescentes pour le renouvellement et la constitution du troupeau. Donc là on a 17 hectares et à peu près. Entre 80 et 90 bêtes à l'année.
Ouais, et ça représente combien en surface, combien il faut de surface de champ pour donner à manger à tous ces animaux ? Parce que 70 brebis, ça doit manger, hein ?
Ça mange un petit peu, mais alors en fonction, je dirais que ça dépend des années, parce qu'une année comme celle-ci où... une année très très sèche, on n'est pas autonome en alimentation, on n'en est pas très loin. On achète aujourd'hui, on achète un petit peu d'herbe sur pied... mon oncle qui fait du cidre à Selboine,
ouais.
Monsieur Desnaux, et puis il nous fait comme il est en train de passer en bio, et il nous fait le mélange céréalier, mais c'est vrai que la plupart du temps, une année pas trop sèche, elles mangent de l'herbe quasiment toute l'année, je dirais 9 à 10 mois l'année, on les rentre uniquement normalement pour les mises bas. Cette année c'est un peu différent, ça fait déjà un mois qu'elles sont au foin parce qu'il n'y a plus d'herbe, les champs sont trop secs. Ça, c'est...
Ouais.
Est-ce que
tu peux nous parler un petit peu des types de produits, de la production issue de cet élevage à Saint-Aubin dans la ferme des Brebis Allais ?
Alors, donc nous, on produit à peu près un petit peu moins de 15 000 litres de lait sur l'année. Donc, c'est à peu près la production moyenne de deux vaches. Et
ouais.
On transforme tout
moi,
ça.
15
ouais,
000 pas... litres, moi, ça me paraît beaucoup. Mais bon, parce que... Donc ça, en fait, c'est la production de deux vaches et tout. Enfin, c'est bizarre, ça. Pourquoi ça produit...
une brebis, ça fait... Enfin, nous, chez nous, les brebis, elles font à peu près 200 litres par an et par bête.
Ouais.
Et une dans vache, l'Aveyron, on peut pousser... une vache, ça peut monter à 10 000.
Ah oui,
bon.
Oui, on n'est pas du tout dans les...
Une vache, on serait plutôt à 5 à 6 000 litres par an. Mmh. Et une brebis, les brebis qu'on pousse sur des systèmes intensifs dans l'Aveyron, là, ils arrivent à 400, sur des moyennes d'élevage à 400. Après, les brebis, elles sont réformées beaucoup plus tôt.
Oui.
Nous, les bêtes, si on peut les garder 6 ou 7 ans, si elles vont bien, on les garde 6 ou 7 ans. Dans l'Aveyron, au bout de 3-4 ans, les bêtes sont réformées.
Et donc 15 000 litres de lait par an, à savoir une production de 200 litres de lait de brebis, par brebis chaque année, par brebis. Et, donc les productions à partir de ça, qu'est-ce qu'on peut faire à partir du lait de brebis ?
Alors nous, on fait pour une bonne moitié de tomes. Donc tomes un petit peu type tomes de Savoie, avec un affinage... minimum de 2 mois. Après, on arrive dans la saison à avoir de la tomme qui a 4-5 mois, là, en ce moment. C'est
oui, parce que j'imagine que c'est souvent demandé, donc il n'y a pas beaucoup en réserve.
Eh ben, si maintenant on arrive à avoir suffisamment de stock, on a un roulement suffisant pour pouvoir en avoir. Donc, on arrive à avoir des tomes qui ont 5-6 mois. Ensuite, on fait aussi des petits fromages, un peu type Saint-Marcellin.
Ouais.
Donc, plus ou moins frais, affinés, jusqu'à 2-3 semaines, parce que ça, en général... Ça part assez bien. Et puis on fait beaucoup, enfin, on fait un petit peu de fromage blanc battu, de faisselle, un petit fromage à l'ail et aux herbes, à tartiner. Mm-hmm. Et puis on fait pas mal de yaourt aussi, donc c'est 20 à 25% de la production, ce qui est assez énorme. Donc on fait des yaourts nature, à la vanille, au citron et puis aux fruits rouges, avec les petits fruits qui poussent sur la ferme.
D'accord. C'est tout ce qui est produit à partir de la brebis. J'ai cru entendre que vous faisiez aussi des merguez de temps en temps ou de choses comme ça, non ?
Alors ça, c'est anecdotique. C'est une ou deux fois par an, on fait partir quelques bêtes justement en réforme, soit parce qu'elles ont
trop vieilles,
elles sont pas bonnes laitières. C'est plutôt souvent des laitières qui sont pas très bonnes ou qui nous embêtent un petit peu.
D'accord.
Donc on fait occasionnellement de la merguez, mais c'est une part minime de notre chiffre d'affaires et de notre activité.
D'accord.
Voilà.
Et donc la vente se fait chez vous, sur les marchés.
Parce que
j'ai eu l'occasion d'aller visiter l'exploitation. Je sais aussi qu'il y a que vous avez installé dans votre ferme un lieu de vente où on va trouver peut-être aussi autre chose que des produits que tu fabriques aussi.
Oui.
C'est ça qui est intéressant.
Alors, depuis cette année, on a ouvert un petit local de vente à la ferme. Enfin, c'est quelque chose qui nous trottait dans la tête. On a installé ça cet hiver pour pouvoir. On avait déjà des œufs et puis des légumes de Moitron, de chez Guillaume et Aurélie Després.
Ouais.
Et puis pour plus de confort, enfin on avait une demande et puis on avait envie de valoriser aussi les produits de nos collègues paysans bio et locaux. Donc aujourd'hui on a du cidre et du jus de pomme de chez Roland Desnaud, de la bière de la Sardoise, donc de Ségris, de chez Joël Blossier. On a de la farine des champs de blé, donc la farine elle vient de Louvigny. On a du miel. Alors le miel, c'est le seul produit qui n'est pas local, mais l'apiculteur est sartois, donc c'est un ami, donc on a du miel qui vient de chez lui. On a du pain d'épices de Ténis.
Ouais.
On a de l'huile de colza de tournesol et du vinaigre de cidre moutarde qui viennent de l'huilerie Saint-Julien, donc à Neuvy en Champagne. Donc là, c'est pas un producteur, c'est un transformateur, mais...
À partir de produits bio à chaque fois, de
oui,
plantes
oui,
bio.
Oui, à chaque fois, c'est certifié bio. Voilà, je cherche si j'oublie quelque chose. Enfin, on a dans l'idée, voilà, si on peut développer les produits de nos collègues, si on peut leur donner un petit coup de pouce sur leur vente ou simplement avoir ça à proposer en plus. Oui, je cherchais, on a des paniers en osier fabriqués à Saint-Aubin par M. Ribaud, qui ont beaucoup de succès.
Oui, je connais ces paniers, oui, je les ai déjà vus. Je te propose une première pause musicale. On va retrouver Agnès Bill avec La chasse aux papillons sur Fréquencier.
Un bon petit diable à la fleur de l'âge, la jambe légère et l'œil polisson, et la bouche pleine de joyeux ramages, allait à la chasse aux papillons. Comme il atteignait l'orée du village, filant sa quenouille, il vise Cendrillon. Il lui dit bonjour, que Dieu te ménage, je t'emmène à la chasse aux papillons.
Cendrillon
ravi de quitter sa page, sa robe neuve,
oui,
et
bon,
ses bottillons,
ouais,
les
ouais.
bras dessus bras
là, on va partir
vers les frais bocages. Ils vont à la chasse aux papillons. Ils ne savaient pas que sous les ombrages se cachait l'amour et son aiguillon, et qu'il transperçait les cœurs de leur âge, les cœurs des chasseurs de papillons. Quand il se fit tendre, elle lui dit: je présage que c'est pas dans les plis de mon cotillon, ni dans les chancrures de mon corsage, qu'on va à la chasse aux papillons. Sur sa bouche en feu qui criait: sois sage, il posa sa bouche en guise de baillon. Et ce fut le plus charmant des remue-ménages qu'on ait vu de mémoire de papillon. Un volcan dans l'âme, ils revinrent au village en se promettant d'aller des millions, des milliards de fois et même davantage ensemble à la chasse aux papillons. Mais tant qu'ils s'aimeront, tant que les nuages porteurs de chagrin les épargneront, ils fera bon voler dans les frais bocages. Ils font pas la chasse aux papillons, pas la chasse aux papillons.
Agnès Bille sur Fréquence, la chasse aux papillons. Alors, si vous entendez une petite sirène derrière nous, c'est simplement un exercice d'alarme au lycée, à la cité scolaire. Bon, c'est pas bien grave, ça va passer, ça va s'arrêter. Voilà, c'est peut-être discret pour vous, mais nous, on l'entend un petit peu pas mal. Donc voilà, excusez-nous. On retrouve Julie Mercier à la ferme des Brebis à l'air. Tu es toujours là ?
Je suis toujours là.
Ouais, t'entends pas l'alarme là, ça va ?
Si, j'entends un petit voilà. peu, mais c'est pas...
Non, mais ça, c'est le direct, en plus de la cité scolaire, voilà, c'est comme ça. Voilà, donc retour sur l'émission Quartier Libre, la ferme des Brebis à lait. Donc on était resté sur cette vente et cette organisation dans une ferme de brebis où on pouvait aussi trouver d'autres produits sur une sorte de supermarché ou de marché alternatif. C'est un petit peu ça l'idée en fait.
Bah, l'idée, c'est un dépôt-vente, en fait, qu'on fait là sur...
Oui,
sur
une sorte d'épicerie, on pourrait dire, oui,
voilà.
Bio,
oui,
voilà,
pour
en pleine nature.
À part les légumes de Guillaume et Aurélie Després, on n'a pas de produits frais.
Ouais.
Parce que c'est plus compliqué à gérer, et puis donc on préfère rester pour l'instant sur des produits, voilà, dits d'épicerie, boissons, produits secs. Voilà.
Oui, parce que je suppose que comme tous les produits frais, il y a des normes à respecter, même si on est en bio, il y a aussi des contraintes de ce type-là, avec des frigos, l'analyse des produits bactériologiques et tout ça, j'imagine, ça se fait pas comme
voilà.
ça, on produit pas du fromage comme ça.
Non, surtout les produits au lait cru. Après, en tant que fermier, comme on est sur des petits volumes, on a ce qu'on appelle la dispense d'agrément, puisqu'on vend moins de 50% de notre production en magasin.
Ouais.
En magasin spécialisé.
Et le reste, c'est en vente directe. Alors les 50% qui restent, c'est vente directe, c'est ça ?
Voilà, on a en gros c'est ça. On a une partie de la production qui est vendue à la ferme, une autre partie sur deux marchés qu'on fait au Mans.
Ouais.
Donc le pâtisse le samedi matin et le vendredi matin au Jacobin.
Ouais.
Et puis on a quelques livraisons qu'on fait au niveau collectivité, entre autres à l'école primaire de Saint-Aubin,
ouais.
du village, où on met des produits. Et puis après, on a quand même les biocopes du Mans, donc les 5 fenouilles, parce qu'il y a 5 magasins maintenant qui nous prennent toute notre gamme de produits. Donc là, on est sur un gros client quand même.
Oui, parce que 5 magasins, ça fait de la vente, j'imagine.
Oui. Puis là, les biocopes, les 5 biocopes sont les biocopes qui fonctionnent très bien, qui sont les fenouilles, ça a plus de 30 ans maintenant
ouais.
au Mans, donc c'est bien implanté. Ils n'ont pas attendu les supermarchés pour faire du bio.
Oui, est-ce que, je reviens un petit peu à, bon, tout le monde connaît un petit peu les réseaux Biocoop, etc., une sorte de supermarché du bio, mais ce qui est plus intéressant, c'est cette idée d'avoir ouvert une sorte de petit magasin, on peut appeler ça comme ça, dans une ferme avec tous ces produits qu'on va trouver des environs. Est-ce que c'est quelque chose qui rentre dans la pratique chez les consommateurs, de venir, au lieu d'aller au supermarché, on va se rendre à la ferme, on va pouvoir trouver des produits. Est-ce que ça marche ça aujourd'hui ?
Ah bah oui, ça fonctionne très bien. Enfin, je pense que si on ne sentait pas la demande, on l'aurait pas fait.
Ouais.
Après, nous, on le fait pas pour augmenter notre chiffre d'affaires ou... Nous, on le voit plus comme un service.
Oui, oui, oui.
De réunir ces produits.
Quand oui, parce que c'est vrai que sur le secteur, il n'y a pas forcément non plus de magasins bio, à part les Biocop, mais pour ça, il faut aller soit à Alençon, soit au Mans, c'est ça?
Oui, c'est ça, oui.
Ouais,
ouais.
Et puis on peut...
Après, alors... on avait déjà eu l'idée, il y a quelques années, d'essayer de trouver un mode de fonctionnement où on pourrait vendre... dans chaque ferme, les produits des uns et des autres, là, des producteurs bio locaux
ouais.
du secteur. On n'avait pas réussi à trouver une formule qui soit intéressante, donc qui fonctionnait, parce qu'on aurait aimé avoir du pain et justement d'autres produits frais des uns et des autres. La logistique à mettre en place était assez complexe, que ce soit au niveau du site internet,
mm-hmm.
maintenant ça se fait, hein, ou après de la logistique vraiment de transport des produits,
ouais.
avec la problématique du transport des produits frais notamment, du respect de la chaîne du froid, etc. Donc du coup, on a dit bon, on va faire un local qui soit plus agréable et puis permettre voilà d'avoir ces produits à côté.
Ouais. Et combien de personnes à peu près chaque semaine ou chaque mois? Est-ce que tu as une idée du nombre de personnes qui viennent dans ce petit lieu de vente en fait qui se trouve sur la ferme? Est-ce que tu as une idée de... J'imagine qu'il y a des habitués et puis il y a des gens qui viennent découvrir aussi peut-être.
C'est ça, ça fait 6 ans qu'on est installé et c'est
ouais.
vrai qu'on a toujours des nouveaux clients, peut-être pas toutes les semaines, mais quand même assez régulièrement, on a des clients qui nous découvrent encore.
Ouais.
Et puis on a ceux qui sont là depuis le début.
Ouais.
Donc je ne saurais pas dire exactement, j'ai jamais compté, ce serait une bonne question, mais c'est vrai qu'on a deux créneaux d'ouverture qui sont le vendredi soir de 16h à 19h et le samedi de 10 à 12.
Ouais.
Et c'est vrai que le vendredi soir, il y a des fois, il ne faut pas être pressé. Et puis,
Ça permet aux gens de discuter aussi, j'imagine.
Voilà, parce que c'est un peu... C'est un lieu de rencontre des gens de Saint-Aubin et du secteur, parce qu'on a beaucoup de clients qui sont du village même,
mmh.
et puis on a d'autres personnes qui viennent d'un petit peu plus loin, jusqu'à, je dirais, 20, des fois 25 km. Mais
ah oui,
ceux-là sont un petit peu plus rares.
Oui, mais, parce que 25 km, après on n'est plus vraiment dans des circuits courts.
On est toujours aussi sur le circuit oui. court, mais on fait des kilomètres.
On fait des kilomètres, on brûle l'essence, quoi, pour acheter voilà. du bio. Enfin, pourquoi pas, hein. Et donc le reste du temps, donc tu parlais des marchés du marché au Mans,
oui.
donc ça c'est le samedi et le dimanche j'imagine.
Et le vendredi.
Et le vendredi aussi.
Matin. Pas le dimanche. Le dimanche on garde la journée pour on a quand même du travail mais pour être en famille.
Oui 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 oui, oui aussi oui, c'est bien de se reposer aussi de temps en temps. Et puis donc les 5 magasins du Mans en bio, les Biocop du Mans et pas celle d'Alençon, oui. juste le Mans alors pour le moment c'est ça.
De toute façon, on a donc cette obligation réglementaire là qui fait que si on voulait fournir plus en volume au niveau des magasins,
ouais.
on est obligé de demander l'agrément européen,
ouais.
qui est un petit peu contraignant au niveau des analyses, et puis c'est un joli dossier à faire. Et puis on a déjà du mal à fournir sur tous nos débouchés actuels, on n'en cherche pas de nouveau.
Ouais. Oui,
donc,
autant déjà produire, déjà ce qu'on peut faire.
On fournit aussi quelques restaurateurs, sur Saint-Léonard-des-Bois, on fournit au passage. Au Mans, on a une sandwicherie qui s'appelle la Place de l'Éperon, qui s'appelle la sandwicherie, qui prend aussi nos produits.
Mm-hmm.
Donc on fournit la map de Vivoin aussi.
Ouais.
Tous les 15 jours seulement. Donc en fait, on a déjà du mal à fournir partout.
Ouais.
Donc on va pas aller mettre nos œufs, nos fromages ailleurs puisqu'on n'en a pas besoin.
Et justement, s'il y a des difficultés pour fournir, est-ce qu'il y a des projets d'agrandissement ou d'augmenter le cheptel ou pour l'instant vous contentez de fonctionner avec votre troupeau de 70 brebis?
Eh bien aujourd'hui on a plutôt pour on n'a pas pour projet d'augmenter le troupeau parce qu'on n'a déjà pas l'autonomie alimentaire.
Oui c'est vrai qu'après il faut leur donner à manger. Oui.
Voilà. Donc après plus de brebis c'est des bâtiments plus grands,
oui.
c'est plus de terre autour de notre ferme puisqu'on fait pâturer et comme on trait deux fois par jour au printemps et puis passer l'été on trait une fois par jour mais il faut quand même traire. Donc pour l'instant on aurait plus dans l'idée éventuellement de trouver un petit peu de foncier pour être autonome
en herbe, en
foin,
ouais,
et
oui.
voilà en nourriture. Et puis ma foi comme on a deux enfants, deux petites filles, pas,
Ah ben, il faut bien s'en occuper aussi.
Bien,
ouais.
Voilà, il faut bien s'en occuper. Nous, on n'a pas dans l'idée d'être la plus grosse ferme du secteur.
Du secteur
on a,
ouais.
Au contraire, on a dans l'idée de vivre sur une surface plus que raisonnable, ouais. Parce qu'on défend l'idée de paysans nombreux et heureux sur leur ferme. Donc nous, on est plutôt dans l'idée de trouver des revenus sur la surface qu'on a, plutôt que d'aller chercher à avoir vraiment... Nous, il nous faudrait 5 à 10 hectares, ce qui mènerait la ferme autour de 25 hectares.
Ah oui, là,
la moyenne départementale
faire,
est plutôt à 80 hectares par agriculteur. Donc oui. Nous faire vivre une famille sur une ferme de 25 hectares, c'est plutôt un bel exemple de répartition du foncier agricole.
D'accord. Je te propose une deuxième pause musicale. On va retrouver une chanteuse qui s'appelle Juliette, que tu connais peut-être. Et la chanson s'appelle Rime féminine sur Fréquence.
Dans un corps vide entrait mon âme, tout à coup être une autre femme, et que Juliette nous rédine en l'une ou l'autre s'enracine, et lire parmi les éminentes celles qui me feraient frissonnante, parmi toutes celles qui surent s'ébattre, qui surent aimer, qui surent se battre, mes sœurs innées, mes philippines, mes savantes et mes bécassines, Julie, Juliette ou bien Justine, toutes mes rimes féminines, Clara Zetkin, Anaïs Nin, ou Garbeau dans la reine Christine, sur le céleste carousel, choisir entre ces demoiselles, Camille Claudel, Mamselle Chanel, ou l'enragée Louise Michel, vivre encore Colombe ou Rapace, écrire, chanter ou faire des passes, Margot Duras, Maria Callas, ou bien Kiki de Montparnasse. Naître demain, renaître hier, en marche avant, en marche arrière, m'incarner dans ses divergences, ses beautés, ses intelligences, et jouir du bien, ne retrait pas, pour dans leurs pas mettre mes pas. Musidora, la Pavlova, ou mon aïeul, la grande gueule Teresa, que j'en ai l'esprit ou l'aspect, ou bien même les deux, s'il vous plaît. Juliette Doué, la signore, ou la grande Mignolidée, tout voile dehors et en chantant, avec l'une d'elles me révoltant, Flora Tristan, Yvonne Printemps, ou la farouche Isadora Duncan, pour toute arme ayant leur fierté, pour amante la liberté, les sœurs Bronte, Loïse Labbé, ou Louandre à Salomé. Même s'il faut en payer le prix, être la fleur, être le fruit, être Alice Guy, être Arletty, Marie Dubas, Marie Curie. Mais s'il vous plaît, point de naissance, de jeunesse ni d'adolescence, épargnez-moi la chambre rose, soyez bonne aux mettant psychose, permettez à votre Juliette de ne point mûrir en Minette, mais en Colette, en Mistinguette, ou pourquoi pas Madame de Lafayette. Mettez-moi, je vous le demande, instamment dans la cour des grandes, Judy Garland, Barbara Streisand, ou cette bonne dame de George Sand. Placez-moi du côté du cœur, côté talent, côté bonheur, Loï Fuller, Dottie Parker, ou Sainte Joséphine Baker. Tout de suite, les feux de la gloire, les feux de la rampe et de l'histoire, la Yourcenar, Sarah Bernhardt, ou la très sage Simone de Beauvoir, une voix d'argent au fond d'un port, une plume d'acier ou un cœur d'or, la Solidor, Christiane Rochefort, ou Marceline Desbordes-Valmore, les belles sans peur et sans marmaille, toutes nues au fort de la mitraille, Sylvia Bataille, Anna de Noailles, camarade Alexandra Kollontai, et les agitatrices de bouche brandissant l'espoir et la gouge, oh l'âme de gouge, Rosa la Rouge, et la vieille Germaine de Montrouge. La lignée des dominatrices, l'Élise, Madame, Donia ou Miss Compariotis, ou les ses diablesses, les vénéneuses et les tigresses, Lola Montes, Gina Manès. Et l'empoisonneuse Boccia Lucrèce. Enfin j'ai pour être sincère du goût pour les belles arrangères, Yvette Guilbert, Claire Bredeschère, j'irai même jusqu'à Anne Sinclair. Mais si tant de souhaits vous chagrinent, s'il est contraire à la doctrine de viser haut dans les karmas, alors faites dans l'anonymat. En attendant que tout bascule, que Satan ne me congratule, ou que les anges me fassent la fête, permettez une ultime requête, faites-la renaître votre frangine, en n'importe qui, en fille d'usine, en fille de rien ou de cuisine, en croate ou en maghrébine, en éponine, en clémentine, en Malka Malika ou Marilyn. Et si votre astrale cuisine par hasard ne le détermine, j'accepterai par discipline de revenir en cabotine, en libertine, en bourgandine. Tiens, en Juliette Nourédine.
Juliette Nourédine sur Fréquencier 97.9 FM, émission Quartier Libre. On retrouve Julie Mercier de la ferme des Brebis à Lait en direct par téléphone. Allô, tu es toujours là ?
Toujours là.
Toujours là pour cette dernière partie d'émission. Une question qui me venait tout à l'heure en t'écoutant, nous parler d'agriculture, de terre, notamment de production sur les terres, puisque de toute façon il faut bien nourrir les animaux. Quelles sont les relations avec les agriculteurs en traditionnel dans le secteur? Comment ça se passe? Est-ce que quand tu t'es installé, ils t'ont regardé d'un œil bizarre?
Oh, ben ils ne l'ont pas forcément trop montré, mais sachant que je m'installais, donc une fille qui s'installe, c'est déjà pas
la
majorité des installations. En bio, c'est toujours pas la majorité des installations, et en brebis laitière, encore moins.
Ouais.
Parce qu'aujourd'hui, on est deux dans le département à faire de la brebis laitière. Bientôt, on sera trois, mais on est... C'était un projet atypique.
Oui, qui a peut-être surpris un petit peu sur le secteur, j'imagine.
Qui a certainement surpris un petit peu. Après, ouais. le bon point que j'avais vis-à-vis des agriculteurs du secteur, c'était que j'étais quand même une petite fille d'agriculteur. Et mes grands-parents étaient agriculteurs dans le temps. Donc, je ne sortais pas de nulle part. Après, ça n'a pas empêché l'installation. On n'a pas énormément de relations avec nos voisins.
Oui.
Mais
c'est pas que vous voulez pas, c'est que ça se trouve pas. Chacun a ses choses à faire.
On a construit un petit réseau d'entraide avec les collègues paysans bio qui sont autour ou qui sont de la même génération que nous. Donc, on travaille aussi un petit peu avec Joël Blossier qui nous a bien aidé sur notre installation.
Oui.
Parce que c'était les terres sur lesquelles on est installé sont à ses parents et il les exploitait jusqu'à ce qu'on s'installe. Donc c'est lui qui cherchait à installer des paysans sur des terres parce que lui souhaitait réduire son activité, donc un peu à l'inverse de ce qui se fait aujourd'hui plus traditionnellement, à savoir si dès qu'on peut récupérer des terres, on récupère. Là, lui, sa volonté, c'était d'installer quelqu'un.
D'accord, ça c'est bien trouvé comme ça. Alors, il n'y a pas de,
voilà.
Pas de problème, vous m'étiez content. Alors, oui, tu parlais de réseau d'entraide entre les agriculteurs, les producteurs en bio. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce réseau? Est-ce que ça a un lien, par exemple, avec le GAP 72 ou c'est différent encore?
Là, c'est plus un réseau informel, de voisins qui se retrouvent, entre autres, les collègues à qui on... On vend aussi nos produits, enfin ça se trouve...
Oui, c'est plutôt sur une forme d'échange de vente, oui.
Oui, enfin, ça va être un coup de main, un prêt de matériel, un prêt de bras. C'est des choses qui sont, pour l'instant, qu'on ne formalise pas trop,
ouais.
Mais qui sont issues, de fait, du réseau du GAP 72, parce qu'on est plus ou moins membre du réseau GAP 72, qui est le syndicat sartois des agriculteurs biologiques, donc qui propose le syndicat. Moi, j'ai été pendant 4 ans secrétaire du GAP 72, J'ai passé la main parce qu'on a un deuxième bébé qui arrivait sur la ferme. L'activité est quand même bien prenante.
Oui, j'imagine, oui.
Et que la plupart des réunions, ça, c'était au Mans, et que Saint-Aubin-d'Aucnay-le-Mans, c'est pas la
direct,
porte à côté.
Non.
Voilà. Donc moi j'ai été 4 ans secrétaire du GAB qui défend les agriculteurs bio, notamment là on est, je pense que ces 2-3 dernières années, c'est bien paru sur le média que les aides à la bio de la PAC avaient du mal à être versées.
Oui, et puis même, là on va y revenir, mais les aides aujourd'hui ont plutôt diminué. Moi ce que je voulais savoir c'est, est-ce qu'il serait encore possible aujourd'hui justement, avec ce qu'on entend sur les mesures par rapport à l'agriculture biologique, de s'installer comme tu as pu le faire il y a encore quelques années?
Oh bon, c'est tout à fait possible. Hein. L'agriculture biologique, que ce soit sur la filière courte ou sur la filière longue, donc nous, ce que j'appelle filière courte, c'est nous ce qu'on fait, c'est la transformation en vente directe ou en circuit court, elle est valorisante, mais la filière longue aussi, notamment sur le lait bio, il y a encore de la demande et les revenus est quand même plus sûr que sur le lait conventionnel.
Enfin,
je sais pas si vous entendrez un jour, moi j'entends pas de collègues qui font du lait bio se plaindre
du prix du lait.
Ouais. D'accord. Voilà, ouais.
Non mais je parlais au niveau des aides européennes, puisqu'on entendait dans la presse ou dans les médias qu'il y avait les aides par rapport au bio avaient été diminuées ou supprimées. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que c'est une légende ou pas?
C'est pas une légende, c'est pas une légende rurale. on sait pas encore trop. Nous, notre système, il fait qu'on est relativement indépendant par rapport aux aides. Ça doit représenter peut-être 10% de notre chiffre d'affaires. Donc,
vous arrivez à vivre sans.
Voilà, là où certaines exploitations.
C'est plutôt du 90%.
Revenu, voilà. Oui. Voilà, donc nous, personnellement, on est serein. Et puis, comme on n'a pas. On attend encore, il y a des années qui n'ont pas été payées,
oui.
Déjà, il y a du retard dans les paiements. On sait qu'a priori, on s'attend à devoir faire malheureusement une croix dessus. Alors, est-ce que c'est plus facile de supprimer les aides à la bio parce qu'on est moins nombreux que de supprimer des aides
aux gros céréaliers, par exemple.
Aux gros céréaliers, à des systèmes qui sont plus tenus par les agriculteurs et qui sont plus rémunérateurs du tout. Donc,
Mais ça montre quand même qu'en agriculture bio, on peut produire, on peut se développer. Et ce qui est assez surprenant, c'est qu'on peut le faire sans presque aucune aide, puisque tu me disais que le revenu, que dans les revenus de la ferme des brebis à lait, les aides ne représentaient que 10% du total, quoi. Donc c'est assez intéressant comme chiffre que tu donnes.
Oui, c'est 10% du chiffre d'affaires, c'est pas 10% de notre revenu à nous.
Mais c'est quand même intéressant de voir que l'agriculture n'a pas forcément besoin d'aide pour pouvoir exister, en fait. C'est ça ce que tu veux dire?
Pas complètement.
Ouais,
serait le discours du ministre de l'Agriculture.
Ouais.
L'Agriculture qui a, quand il a sucré les aides, il a dit arrêter le maintien à l'agriculture biologique parce que les agriculteurs bio sont trop riches.
Je pense que c'est pas le cas.
Ce que les agriculteurs bio revendiquent dans ces aides, c'est un service rendu environnemental aussi. C'est-à-dire que l'agriculteur bio, il ne rejette pas de pesticides. Donc c'est un non-coût pour le traitement des eaux, alors qu'un agriculteur conventionnel qui va utiliser des pesticides et qui vont se retrouver dans l'eau, dans le sol, lui, derrière, quand on passe derrière lui, l'eau, les nappes phréatiques, elles sont polluées, et il faut traiter l'eau pour la rendre potable. Donc il y a tout cet aspect-là, l'aspect agro-environnemental que l'agriculteur bio, il défend.
Ouais. Et est-ce que c'est reconnu aujourd'hui par l'Europe ou par la France, cet aspect important de cette défense de l'environnement, qu'a toujours été le fait des agriculteurs d'ailleurs, puisque les agriculteurs ont contribué jusqu'à une certaine période à la protection de l'environnement, si on peut dire, au maintien de la diversité. Et on voit qu'aujourd'hui, avec les pesticides, justement, c'est plus tout à fait le cas. Est-ce que c'est quelque chose, un message qui est entendu aujourd'hui?
Oh, c'est un message qui est entendu, mais la question c'est est-ce que les actes suivent et suivront?
Oui.
C'est toujours le grand débat.
Oui. Et comment je suppose qu'il y a des syndicats d'agriculteurs biologiques qui bataillent un petit peu pour faire entendre cette idée d'importance du bio, non seulement pour la nourriture, mais aussi pour l'environnement. Comment aujourd'hui les choses sont défendues et par qui?
Le rapport de force, il est malheureusement pas à notre avantage au niveau nous les agriculteurs bio, parce qu'on a il y a derrière c'est une bataille syndicale et, oui. Et on sait que enfin que ce soit les syndicats majoritaires qui comptent quelques agriculteurs bio dans leur rang, mais qui sont pour la majorité conventionnelle ou les lobbies semenciers et chimistes. Le réseau de FNAB, donc la Fédération Nationale des Agriculteurs Bio, et ma foi, c'est un peu David contre Goliath. Ouais. Alors après, nous, la force qu'on peut avoir, et qui c'est l'appui citoyen, puisqu'on a on a peut-être pas un peu moins de tracteurs quand on manifeste, mais on a l'opinion publique derrière nous,
ouais.
qui veut manger bio et qui veut avoir de meilleure qualité.
Oui. Alors justement, manger bio, on a eu il n'y a pas très longtemps l'idée qu'il fallait que ça a été rejeté cette idée-là. Je crois que c'était par le Sénat, mais que toutes les cantines puissent se fournir en produits bio. Est-ce que toi, en tant que productrice bio, est-ce que toi, ça te semble une idée réalisable tout de suite? Parce qu'il faut quand même, en face de la production pour les restaurants scolaires, par exemple, il faut avoir des producteurs aussi. Est-ce que c'est pas toujours le cas?
C'est ça. C'est pas toujours le cas. Et de mettre des objectifs de 20 ou 50% de bio dans les assiettes, dans les cantines scolaires, c'est... Dans l'idée, c'est un bel objectif.
Oui.
Après, il faut se donner les moyens de ces objectifs. Donc à savoir sur éventuellement l'installation notamment mais pas que de maraîchers bio, parce que le maraîchage c'est des exploitations qui demandent souvent des petites surfaces, donc souvent on a bien 1 ou 2 hectares dans la commune qui pourrait servir à installer un maraîcher qui fasse des légumes bio pour la cantine ou pour les maisons de retraite ou les hôpitaux. Ça c'est l'objectif, il est voilà, comme je disais tout à l'heure pour les aides, l'objectif il est noble. Après tout dépend des moyens qu'on met derrière.
Et puis aussi de la volonté politique, parce que j'imagine que les élus locaux dans les communes, il y a toujours des bouts de terrain qui appartiennent à la commune. Après, c'est peut-être aussi aux élus de dire, nous, on voudrait lancer ou avoir un producteur bio pour justement la restauration scolaire. Mais ça, c'est une décision des élus locaux après.
Complètement.
Peut-être, oui.
Les élus locaux et des citoyens qui derrière peuvent mettre la pression.
Oui.
Enfin, peuvent mettre la pression ou émettre ce souhait-là. Il y a notamment à Filly-sur-Sarthe. C'est une chose qui est en train de se faire. Ils sont en train d'installer, c'est peut-être même déjà fait, un maraîcher bio pour fournir la cantine.
D'accord. Et c'est la commune.
Il me semble que ça se fait la commune, oui, qui.
À Filly-sur-Sarthe.
Oui.
Intéressant,
voilà.
Je note.
Ils sont en train de mettre ça en place.
Oui. Et donc,
notamment avec l'aide aussi de, il me semble que Terre de Liens, qui est une foncière qui achète des terres agricoles pour installer des agriculteurs bio en fermage. Il me semble que Terre de Liens est dans le circuit, mais je suis pas sûre à 100%.
Ouais. Une dernière question, est-ce que le bio, on voit qu'il a un avenir, mais qu'est-ce qu'il manque aujourd'hui à ce bio pour qu'il devienne de plus en plus, je veux dire, pas populaire, mais qu'il soit accessible, qu'il soit de plus en plus reconnu, entré dans les mœurs de chacun. Les mentalités changent, mais est-ce que ça change assez rapidement?
Les mentalités changent plus rapidement que les installations d'agriculteurs bio, je pense.
Ouais.
Parce qu'aujourd'hui, la France, elle est obligée d'importer une partie de ses produits, sa consommation biologique.
Donc il manque des producteurs en France en bio. L'offre n'est pas assez suffisante par rapport à la demande, c'est
suffisamment,
ça.
Voilà, aujourd'hui, on n'est pas suffisamment nombreux pour fournir toute la demande en produits bio. Parce qu'il y a du bio qui est importé des pays voisins, voire de plus loin.
Ouais, alors est-ce que c'est encore du bio après,
il y a encore une marge de progression pour installer ou convertir, parce que l'installation de jeunes agriculteurs bio, c'est un des leviers de plus de bio dans les cantines, dans nos assiettes et dans nos paysages en général. Mais il y a aussi la conversion qui peut être plus compliquée à mettre en place pour un agriculteur déjà installé, mais qui peut se faire via l'accompagnement, entre autres, de... Par exemple, du GAP 72, l'accompagnement technique et du GAP 72 ou de collègues, de voisins, enfin du réseau d'agriculteurs bio en plus ou moins local.
Alors pour terminer, avant de mettre fin à cette interview, est-ce que tu peux nous donner les contacts, numéro de téléphone, adresse exacte, horaire d'ouverture de cette ferme des brebis à lait pour les personnes qui souhaitent découvrir La production de la ferme, mais aussi peut-être acheter des produits de vos collègues maraîchers ou autres producteurs bio. Est-ce que tu as une adresse, téléphone, heure d'ouverture à nous donner?
Donc on est ouvert, on est à la base Gouloir, donc c'est sur la route des Bercons à Saint-Aubin-de-Locney. On est ouvert le vendredi de 16h à 19h et le samedi de 10 à 12. Alors par contre, là, l'émission radio tombe pas bien parce que au vu de la sécheresse et puis la saison qui s'avance, en gros, dans 15 jours, à la fin du mois, on fera notre dernière vente pour la saison.
D'accord.
Parce que les brebis n'ont pas du lait toute l'année. Et donc, on rouvrira après fin février, début mars,
d'accord,
que ce soit à la ferme ou sur les marchés. Donc, et après, le mail, c'est la ferme des brebis à lait, donc A2LAIS, tout attaché, @yahoo.fr. Voilà.
D'accord. Peut-être qu'on se retrouvera, nous, pour l'ouverture en février-mars, pour le coup.
Pourquoi pas.
Ça sera l'occasion de faire de la pub. C'est vrai que j'avais oublié que c'est l'agriculture, c'est aussi quelque chose de saisonnier.
Voilà.
Et dans le cas de l'élevage bio, on est complètement dans le suivi des saisons et c'est valable aussi donc pour les brebis, la production du lait.
Voilà, c'est ça.
Voilà, bien Julie, je te remercie et puis on se dit donc peut-être à l'année prochaine pour l'ouverture, la réouverture de cette ferme des brebis à lait. Voilà, je te souhaite une bonne journée.
Et de même. À
merci,
bientôt.
Au revoir.